Madame Van Rumbeke, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes donc actuellement chercheur invité à la Maison des sciences de l'homme. Vous êtes docteur en iranologie et vos domaines de recherche portent sur la période médiévale et notamment la littérature et actuellement les contes. Donc avant de rentrer dans le vif de votre recherche actuelle, est-ce que vous pouvez nous retracer brièvement vos recherches antérieures?
Bien sûr. Merci d'abord de m'avoir invité à cette interview. Je suis pour 3 mois à Paris pour mener mes recherches. En général, je vis à Cambridge où je donne cours à l'université de Cambridge, à la faculté d'études orientales là-bas. Et effectivement, je m'occupe de littérature persane, surtout la littérature classique, qu'on appelle aussi littérature médiévale, mais donc la période médiévale pour l'Iran est beaucoup plus vaste que ce que nous entendons généralement en Occident comme période médiévale. En gros, pour ce qui concerne la littérature persane, cela couvre la production littéraire du 10e jusqu'à peu près le 19e siècle. Donc c'est une très très vaste période. J'ai été vraiment, au début de mes recherches, j'ai été vraiment fascinée par la production des poètes, la période la plus ancienne, du 10e jusqu'au 13e siècle, jusqu'à l'arrivée des Mongols en Iran. Et cette production poétique, à ce moment-là, est très pure, est très belle, est très peu étudiée encore, et donc j'avais l'impression de faire un travail utile en m'intéressant un petit peu à ce qui avait été fait à ce moment-là. Après l'arrivée des Mongols, après la période mongole, la poésie persane reprend du poil de la bête, disons, mais est axée d'une manière totalement différente, est axée vers la mystique et vers le soufisme persan. Et là, je ne me suis pas encore vraiment bien penchée là-dessus, fort intéressée à cet aspect-là de la poésie. Donc, ce qui m'intéresse principalement en littérature persane, c'est l'aspect non mystique. Et en étudiant ça, c'est vrai que je me pose un petit peu en porte-à-faux par rapport à la manière dont beaucoup de monde étudie la poésie persane. En général, quand on parle de poésie persane, on pense beaucoup à la mystique et à une sorte d'ésotérisme exprimé en vers. Et je combats un tout petit peu cette approche qui me semble diminuer vraiment l'impact de la poésie. Il est certain que certains poètes ont été des grands mystiques, mais je pense que ça ne se limite pas à ça et qu'il y a énormément de production poétique qui n'est pas du tout mystique et qui n'a pas du tout qui est appauvrie si elle est étudiée et expliquée uniquement dans cette optique-là. Donc ça, c'est en deux mots pour vous dire ce que j'ai fait avant la recherche qui m'occupe actuellement. Et donc, depuis disons 2 ans, je m'intéresse, et de plus en plus d'ailleurs parce que c'est fascinant, je m'intéresse à une collection de fables d'animaux, de fables persanes. C'est très dangereux de ma part d'aborder ça parce que c'est vrai que ces fables d'animaux, ces fables persanes sont très très célèbres, ont été beaucoup étudiées, beaucoup discutées, et j'ai l'impression que mon approche est un petit peu révolutionnaire, et donc je pense que je vais faire peut-être rugir beaucoup de monde en expliquant que contrairement à la manière dont on les voit d'habitude, j'ai l'intention, et je m'y emploie maintenant, d'étudier ces fables persanes comme un recueil de sciences politiques et pas du tout comme un recueil de de morale et de sentence morale comme on les voit en général. Je crois qu'il faut que je commence par vous expliquer de quoi il s'agit exactement, et puis vous allez voir un petit peu la manière dont j'avance et dont j'étudie ça. Donc les fables, la collection de fables dont je m'occupe s'appelle, enfin à plusieurs noms, mais le nom le plus célèbre c'est le livre de Kalila et Dimna. Le livre de Kalila et Dimna, Kalila wa Dimna, est ultra célèbre. Ultra célèbre, tous les enfants apprennent les fables, c'est plus célèbre en Orient que nos fables de La Fontaine. Et ce n'est pas par hasard que je parle de La Fontaine, puisque effectivement, lui-même s'est intéressé à ses collections de fables persanes, et dans le deuxième volume de ses fables, il mentionne effectivement dans l'introduction qu'il a trouvé son inspiration, que la plupart de ses fables, et là il exagère un peu parce qu'il n'y en a pas tellement, enfin que la plupart de ses fables sont influencées par les histoires de Bitpai l'Indien, et donc Bitpai l'Indien, c'est une autre manière de désigner l'auteur présumé de ses fables de Kalila wa Dimna. Mais je vais revenir à La Fontaine et à l'importance de ces fables chez nous en Occident dans un instant. L'histoire, et là aussi, il faut la remettre en question et s'interroger sur la réalité de ce qu'on raconte en général, mais l'histoire veut que ces fables soient composées en Inde, en sanskrit, vers le 2e-3e siècle de notre ère. Et au 6e siècle, nous avons en Iran un empereur, Anushirvan, un roi qui a été célèbre pour sa justice et son règne exceptionnel. Anushirvan entend parler d'un trésor caché en Inde qui est extrêmement important pour tout roi qui se respecte. Il envoie un émissaire, un médecin, qui va pour son compte, pour le compte du roi, aller en Inde et trouver ce trésor, ce livre de recettes de gouvernement, de bon gouvernement, que les Indiens gardent jalousement dans le trésor de leur monarque. Et notre envoyé persan réussit par toutes sortes de ruses à s'approprier ce livre. Il le copie, il le traduit de sanskrit en Pahlavi, qui est la langue persane de l'époque, et ramène en triomphe ce livre à la cour du roi. Il est récompensé de mille manières, et effectivement, dit toujours l'histoire, le roi bénéficia énormément de la sagesse contenue dans ce livre. La sagesse contenue et qui est présentée sous forme d'histoire. Et alors là, la formule en arabe est très claire, d'histoire d'animaux à quatre pattes et d'oiseaux. Et donc, quelques années après le règne de notre roi Anushirvan en Perse, c'est l'arrivée bouleversante de l'islam, des Arabes qui envahissent le domaine, l'empire persan. Je ne vais pas entrer dans les bouleversements internes à l'empire arabe, mais disons qu'au 8e siècle, il y a un changement de dynastie. Et les nouveaux califes à Bagdad s'intéressent à la culture pré-islamique, organisent un énorme mouvement de traduction des livres scientifiques grecs, également de livres scientifiques persans, indiens. Et parmi les premiers livres traduits en arabe se trouve la collection de nos fables. Collection de fables qui est donc traduite vers 757 de notre ère par un persan converti à l'islam et excellent prosateur arabe. Ces fables donc sont traduites en arabe. Le traducteur est ultra célèbre, il s'appelle Ibn al-Mukaffa. C'est un des tout grands et tout premiers auteurs en langue arabe. Et Ibn al-Mukaffa nous présente cette collection de fables persanes qu'il a baptisée du nom de Kalila Wadenna. Et Kalila et Denna, je vais vous le raconter aussi, ce sont les noms de deux chacals qui interviennent dans la première partie de ce recueil de fables. Et dans son introduction, Ibn al-Mukaffa, plusieurs fois, Ibn al-Mukaffa insiste sur le fait, après ça tout le monde va le faire, mais lui est un des premiers à le faire, il insiste sur le fait que ce livre n'est pas aussi évident qu'il le paraît, et que donc il faut être doué d'une grande sagesse afin de comprendre la moelle des histoires sous leur habit probablement un peu, il ne va pas dire enfantin, mais disons trivial. Et donc, nous sommes, le lecteur est prévenu, il doit faire preuve de discernement en lisant les fables. Et nous voyons que Ibn al-Mukaffa, travaillant sur un original persan qui est perdu désormais, que nous n'avons jamais eu en main maintenant, comme beaucoup l'ont fait pendant toute la période médiévale, que ce soit en Orient ou en Occident, ne se contente pas d'être un traducteur. Il ajoute, il retranche, il ajoute des commentaires, et ce livre est à la fois est inspiré par ces fables persanes, mais il a changé, et nous ne savons pas à quel point, il a changé le contenu, la longueur de ce livre original persan qu'il avait. Nous savons qu'il a ajouté un chapitre complet à l'histoire, justement, la première histoire, l'histoire de Kalila Wademna. Il a ajouté un chapitre complet qui, et je vais y revenir aussi, qui fait triompher la morale. Et il est très important de voir que Ibn al-Mukaffa a, en paraphrasant, il vaut mieux dire ça qu'en traduisant, en paraphrasant le livre persan original, il y a collé, il y a adapté tout un schéma de pensée morale, la moralité islamique, mais qui est aussi la moralité, je dirais, universelle, a été ajouté, mais nous ne savons pas, et c'est en grande partie là-dessus que je me penche, nous ne savons pas jusqu'à quel point il a investi ces fables persanes d'un contexte, d'un contenu, ou en tout cas de leçons morales qui viennent à la fin de chaque histoire, de chaque illustration par les fables.
Comment vous savez que ça a été rajouté? Comment sait-on que ça a été rajouté par lui?
Il le mentionne, oui. Et on s'en doute aussi parce que la seule trace de l'original persan du VIe siècle, la seule trace que nous ayons et qui n'est pas complète, c'est un manuscrit d'une traduction en syriaque. C'est très compliqué, toutes ces traductions, toutes ces histoires, mais donc d'une traduction en syriaque de l'original persan, une traduction qui n'est donc pas complète, mais nous voyons que dans le manuscrit syriaque, il n'y a absolument pas de trace de ce chapitre rajouté par Ibn al-Mukaffa. Alors, donc ce livre connaît un énorme succès. Il va être traduit quelques siècles plus tard, au moment où le persan refait son apparition parce que le pouvoir central arabe s'effrite un petit peu, les monarques persans reprenant de la puissance, ils exigent que l'on retraduise beaucoup d'ouvrages de l'arabe vers le persan. À ce moment-là, nous avons une retraduction de l'arabe vers le persan de ces fables de Kalila Wademna, qui date du XIIe siècle, qui est également quelque chose de très important, traduit par Nasrullah Munshi. Et l'ouvrage sur lequel je travaille principalement est une une retraduction, une représentation de ces mêmes fables persanes, faite au XVe siècle cette fois-là, tout à la fin du XVe siècle, pour une cour timouride à Herat, en Afghanistan actuel. La cour de Sultan Hossein Baykara. Je vous le cite simplement parce qu'il était extrêmement célèbre pour l'influence culturelle que sa cour a eue et qui a joué un grand rôle à la fois comme modèle culturel pour les grands moghols en Inde et pour les sultans ottomans en Turquie. Donc, le livre sur lequel, la version, disons, sur laquelle je travaille principalement, est cette version du XVe siècle, faite à Herat, et qui a reçu un autre nom, que l'auteur a baptisé du titre de Lumière de Canope, Anvar-e Soheili. Il a certainement également ses raisons pour avoir voulu changer le nom de ultra célèbre de Kalila Wademna vers Lumière de Canope. Et c'est cet ouvrage-là qui va connaître le plus de retentissement en Occident et principalement en France, puisque quelques 200 ans plus tard, il va être traduit en français. Et c'est cette traduction, le livre des Lumières ou le livre de Bitpai, que notre La Fontaine va avoir en main et qui va donc l'influencer pour certaines de ces fables bien connues. Les trois grandes étapes, je vais les donner encore une fois. Il y a donc la traduction arabe du 8e siècle de Ibn al-Mukaffa. Il y a une traduction en persan au 12e siècle et il y a un retravail sur cette traduction du 12e siècle au 15e siècle à Herat. Et l'auteur s'appelle, l'auteur du 15e siècle s'appelle Kashefi. Vaes Kashefi. Il est un personnage extrêmement important à la cour de Timouride, à la cour de Sultan Hossein Baykara. Il est un prédicateur. Il est un prédicateur et il est aussi un homme universel qui, dans la deuxième partie de sa vie, donc à un âge mûr déjà, a écrit toute une série d'ouvrages scientifiques ou de vulgarisation. Ça dépend de l'ouvrage. Mais donc, on a l'impression, on le connaît encore très très mal, Vaes Kashefi, mais plusieurs de mes collègues se penchent sur d'autres aspects de sa production littéraire. Mais donc, on a l'impression que voilà un homme qui a désiré présenter une synthèse du savoir de l'époque et il a retravaillé, remis à la sauce de l'époque et aussi selon ses connaissances et sa sagesse, il a représenté donc tout un tas d'ouvrages très célèbres, très connus, qu'il a, disons, retravaillés. Et parmi lesquels, donc, mon histoire des fables persanes. Alors, Vaes Kashefi a déjà à son actif, au moment où il écrit les Lumières de Canope, le Anvar-e Soheili, il a déjà à son actif un livre de science morale. Et il a souvent été considéré sans plus s'interroger que mais voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la morale, et donc il a écrit son premier livre sur les akhlaq, sur la morale, et donc c'est tout à fait normal qu'il s'intéresse également à ces fables persanes très morales, et qu'il ait désiré continuer son cheminement et présenter donc sa manière à lui de voir ces fables morales. C'est tout à fait possible comme raisonnement. Ce n'est pas le mien. Moi, je pense plutôt que cet homme qui a donc touché à tous les domaines de la science connus à son époque, qu'il a, d'ailleurs, il le dit dans son introduction, donc je ne suis pas tout à fait, je n'invente pas, il a effectivement travaillé sur la morale et maintenant, en s'attachant à ses fables persanes, il va travailler sur un autre domaine, sur un autre sujet. Et dans son introduction, il dit ces fables, en fait, ne sont pas du tout affaires de morale. ces fables sont effectivement une recherche de sciences politiques. Elles s'adressent, d'ailleurs on les appelle souvent des miroirs pour princes, ce sont des recueils qui s'adressent au futur prince qui va prendre le pouvoir. Mais ici, il ne s'agit pas du tout de montrer au jeune prince comment il peut être un monarque qui respecte la moralité. Ici, il s'agit, et je pense qu'en parlant de ça, Kashefi a retrouvé effectivement le but premier de ces fables qui ont été traduites là, du sanskrit en persan avant l'arrivée de l'islam et avant le travail d'interprétation morale de Ibn al-Mukaffa. Il s'agit d'expliquer au jeune ambitieux, au jeune prince ambitieux qui veut arriver au top, qui veut devenir le conseiller du monarque, le conseiller éventuellement de son père. Il s'agit d'expliquer à ce jeune ambitieux comment il doit faire pour grimper les échelons, comment il doit faire pour s'introduire dans l'intimité du monarque, comment il doit faire pour écarter tous les autres. Et comment il doit faire pour garder cette position de premier conseiller et de futur monarque lui-même. Et donc, à mon avis, et je pense que Ibn al-Mukaffa, quand il a traduit ses fables du persan vers l'arabe au 8e siècle, qu'il était conscient de cette portée des fables persanes, qu'il a essayé de, en anglais on dit cloud the issue, qu'il a essayé de perdre ça dans le brouillard, parce que c'est un livre effectivement extrêmement choquant et extrêmement impressionnant de sagesse, de savoir-faire, de sciences politiques, et qu'il a essayé de ne pas le rendre trop évident à une première lecture ou à un lecteur non averti. Et que donc, j'insistais un petit peu tout à l'heure sur le fait que dans son introduction, Ibn al-Mukaffa dit qu'il faut être doué de discernement pour arriver à comprendre le contenu de ses fables. Et j'ai l'impression que son travail à lui a été de coller sur ce contenu de sciences politiques un premier rideau, je vais dire un premier voile de morale qui effectivement est intéressant, mais quand on lit ces fables de Kalila Wodemna, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à moi, je dépose le livre en me disant comment est-il possible que cet ouvrage de morale, oui mais enfin c'est de la petite morale, ça n'a pas un retentissement tellement exceptionnel, comment est-il possible que ce livre ait été tellement célèbre et ait été traduit comme ça avec tellement d'insistance et ait été employé et reconnu de manière tellement extraordinaire dans tout le Moyen-Orient et également en Occident, puisque je n'ai pas passé en revue toutes les traductions qui ont été faites, mais dès le XIIe siècle, l'ouvrage a été traduit en latin également, et puis à partir du latin dans toutes les langues européennes et dans toutes les langues connues du monde médiéval et de la Renaissance. Donc la question que je me suis toujours posée, c'est comment se fait-il que ce livre était considéré comme tellement important, alors que moi, au XXe siècle, XXIe siècle, je le lis et je le dépose en me disant « Oui, c'est charmant, oui, ces fables sont tout à fait amusantes, mais la morale qui est donnée après chaque fable me semble fort triviale, me semble fort manquer de poids. » Mais donc, mon travail maintenant, ma recherche, c'est d'essayer de nettoyer le texte de ses connotations morales et essayer de revenir à ce qui devait ou ce qui a peut-être été l'original sanskrit ou persan, parce que je mets aussi un tout petit peu en doute l'origine sanskrite de l'ouvrage, mais je n'ose pas en parler parce que je n'en suis encore qu'à mes débuts de recherche, mais en tout cas, quel était le but de cet ouvrage ancien, et comment expliquer qu'il a été considéré comme tellement important que le roi de Perse a envoyé quelqu'un disons, un agent secret pour le ramener en Perse. Comment as-tu, pourquoi a-t-on considéré qu'il fallait le traduire parmi les tout grands ouvrages de connaissances universelles que les califes de Bagdad ont voulu faire traduire? Comment est-il possible qu'il y ait eu tellement, il y ait eu tellement de retentissement en Occident, en Orient? Et je pense que le succès du livre, le succès du recueil, c'est justement son fond de science politique, et c'est une lecture non morale de l'ouvrage qui explique son retentissement et son importance. Alors, si vous demandez quel est le public auquel s'adresse cet ouvrage,
qui avait accès
à l'ouvrage et auquel il s'adresse, c'est le public de la cour. C'est le public des lettrés de la cour. À mon sens, en Orient médiéval, les seuls lettrés et les seuls personnages qui lisent des ouvrages sont ceux qui sont dans l'entourage de la cour, les savants. Tout ce monde-là est rassemblé à la cour. Et donc, la plupart des ouvrages qui sont écrits, que ce soit de la poésie ou que ce soit des livres de science, s'adressent à des savants qui sont à la cour ou à des courtisans ou enfin à ce monde très réduit de la cour ou des cours médiévales.
Et au fil des siècles, justement,
Et alors, au fil des siècles, et maintenant, Kalila Wademna est considéré comme un recueil à la fois de fables pour enfants et aussi un livre. Il met mal à l'aise parce qu'on aurait tendance à le considérer comme un livre assez léger de morale. C'est donc ça que je viens de vous expliquer. Et à la fois, on est mal assis en le lisant parce que il est évident que ça ne sonne pas juste. Qu'il y a là une dimension qui est torturée, qui est mal emboîtée. Et ça vient évidemment de toutes les recensions et le travail d'adaptation au cours des siècles. Mais ça vient aussi, me semble-t-il, surtout de la version de départ en arabe de Ibn al-Mukaffa qui a, et je crois volontairement, et je crois non pas par un désir de piété ou de moralité, qui a donc caché le sens véritable par ce rideau de morale qu'il a appliqué sur les fables.
Oui. Vous pourriez nous donner un exemple en fait d'une de ces fables?
Absolument. Et je crois que c'est d'ailleurs très important parce que ça permet de voir un peu la logique de ce que je vous raconte. J'ai le choix entre le premier chapitre ou le troisième chapitre, vous me dites? Non?
Eh bien,
on va commencer par le premier chapitre, l'histoire de Kalila et d'Ibna. Vraiment, donc ce livre est construit en plusieurs chapitres ou plusieurs livres, et ce n'est que le premier qui, effectivement, et on a rajouté un second après ce premier chapitre, et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi. Et donc le premier chapitre est effectivement le chapitre où interviennent les deux chacals, Kalila et Dimna. Après ça, ils disparaissent et ce sont l'autre chapitre dont je pensais vous parler, c'est l'histoire des corbeaux et des chouettes, et donc on parle d'autres animaux, si vous voulez. Mais donc Kalila et Dimna, c'est les héros du premier chapitre. Et l'histoire, et je vous parle seulement de l'histoire cadre, donc ces fables sont construites comme souvent, et comme on les connaît très bien dans les fameuses Mille et une Nuits, donc il y a une histoire cadre dans laquelle des protagonistes racontent une histoire, dans laquelle des protagonistes racontent une histoire, et donc il y a tous les cadres qui s'emboîtent, et finalement on revient ou on ne revient pas si le livre a été mal construit à l'histoire première. Mais donc Kalila Wademna a été très bien construit comme ouvrage, et cette histoire cadre est celle qui comporte la leçon de science politique dont je vais vous parler. Les fables à l'intérieur de cette histoire cadre sont disposées de manière à donner un éclairage particulier, à donner un poids particulier à certains des éléments de la discussion des protagonistes. Mais donc la grande question ici, c'est, nous avons les deux chacals, les deux frères chacals, Kalila et Dimna, qui sont d'origine très modeste. Et Dimna a une ambition. Dimna a une ambition dévorante, il veut justement grimper les échelons à la cour et il veut devenir le conseiller particulier du roi Lion. Kalila, son frère, va tout au long de l'histoire lui montrer que c'est une folie et qu'il ferait mieux de renoncer et que ce n'est pas leur place de s'introduire à la cour et qu'ils ne font pas partie de ce monde-là et que c'est dangereux. Et donc tout au long du développement de l'histoire, Kalila a ce rôle de sagesse, si vous voulez, ou de frein à l'ambition de son frère. Alors Dimna, donc, n'écoute pas son frère et avance tout droit sur son chemin, sur le chemin de son ambition, et réussit petit à petit à s'approcher du roi. Mais il est loin d'être le meilleur ami ou le conseiller vraiment tout à fait privé du roi. Mais enfin, quand même, il réussit à se faire remarquer par sa majesté. Et un jour, il se rend compte que le roi n'est pas de bonne humeur, que le roi n'a pas envie de sortir pour aller à la chasse, que ça ne va pas. Et donc, il s'approche du roi et lui dit, Majesté, que se passe-t-il? Dites-moi, est-ce que je peux vous aider? Vous êtes visiblement, vous avez un problème là, dites-moi. Et le roi lui dit, eh bien oui, finalement, à vous, je peux le dire, à un noble de la cour, je ne l'avouerai pas, mais vous n'êtes pas grand-chose, finalement. Et donc, je peux vous dire que j'ai peur, j'entends des bruits que je n'analyse pas, que je ne reconnais pas, et ça m'inquiète, et je n'ose pas sortir de chez moi. Dimna, dans le désir d'effectivement de se faire bien voir par le roi, dit mais je vais aller faire mon enquête et je reviens tout de suite et je vais vous raconter ce qui se passe. Il fait son enquête et il se rend compte que les bruits qui inquiètent le roi sont les soupirs d'un énorme taureau qui se trouve dans un pré pas bien loin, et le taureau est seul, et de temps en temps, mais la vie est belle et le pré, l'herbe est délicieuse, et il se met à soupirer ou à chantonner, ou enfin bon. Et c'est effectivement ces bruits-là que le roi n'arrive pas à analyser et qui lui font peur. Dimna, tout content, revient près du lion et lui dit, Majesté, bien voilà, regardez, écoutez, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur, c'est un taureau. Il est tout à fait pacifique, il est tout à fait gentil, je lui ai parlé et si vous voulez, je vais vous l'amener à la cour et vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas du tout de quoi vous inquiéter. C'est d'ailleurs ce que fait Dimna et il présente le taureau au roi. Et ça, c'est son erreur, c'est son immense erreur parce que le taureau est tellement sympathique et il devient, lui le taureau, l'ami, le confident, le premier conseiller du roi. Et donc Dimna, dans son zèle pour se faire bien voir du roi, s'est coupé l'herbe sous le pied et a introduit à la cour celui qui prend sa place. Donc Dimna s'arrache les cheveux des oreilles, les poils des oreilles, et il se dit « mais comment faire pour rattraper cette gaffe? Comment dois-je faire ?» Voilà que j'ai donc créé une amitié extraordinaire parce que ce taureau, en plus, il est vraiment bon, il est vraiment honnête, il est vraiment sympathique et il est un conseiller merveilleux pour le roi Lion. Comment vais-je faire pour écarter, pour que ces deux amis se mettent à se détester et pour que je puisse retrouver une ouverture là pour prendre la position que je désire obtenir à la cour? Il réfléchit beaucoup, il discute avec son frère Kalila et finalement il se dit je n'ai pas assez, si je les fais se détester, ce n'est pas assez. Il faut que j'aille un degré plus loin, puisqu'ils sont tellement amis, même s'ils se séparent pour un moment, ils vont se réconcilier après. Donc il faut que je trouve quelque chose qui va les éloigner l'un de l'autre pour toujours. Et le seul moyen de faire ça, c'est de m'arranger pour qu'ils se craignent l'un l'autre. Parce que ceux ayant peur l'un de l'autre, ils vont effectivement ne plus avoir confiance l'un dans l'autre, et ça va effectivement détruire leur amitié. Et donc on voit Dimna, qui va aller de l'un à l'autre et qui va petit à petit et d'une manière vraiment machiavélique introduire cette peur dans la pensée et du lion et du taureau. Au lion, il va dire que le taureau, énorme, puissant, et malgré son aspect débonnaire, est en fait approché par des gens à la cour pour prendre la place du lion. Et au taureau, il va dire que le lion a l'air d'être son ami, mais que c'est bien connu, les rois, on ne peut pas leur faire confiance, ils sont tous sourire un jour, et le lendemain, sans qu'on sache pourquoi, ils ordonnent qu'on vous coupe la tête. Donc il faut vraiment se méfier de cette amitié royale qui ne durera certainement pas. Et en plus, Dimna a entendu qu'effectivement le lion en avait assez du taureau et qu'il allait annoncer sa décision de le faire exécuter. Et donc quand les deux amis, le taureau et le lion, se retrouvent face à face, ils ont tellement peur l'un de l'autre que s'ensuit un combat à mort. Le lion, parce qu'il est le roi, tue le taureau et la scène se termine. Le lion est là devant le corps, le cadavre du taureau. Et il se dit, oui, évidemment, j'ai fait ce que je devais faire, mais enfin, c'était quand même un ami que j'ai aimé et qui a été vraiment sympathique. Est-ce que j'ai vraiment eu raison de le tuer? Et Dimna est là, il tape sur l'épaule du roi et lui dit, Majesté, vous avez bien fait, c'était comme ça qu'il fallait agir, ce taureau, eh bien, c'était du poison. Quand on a une petite coupure au doigt, il vaut mieux tout de suite le couper parce que sinon l'infection va monter dans le bras et Dieu sait où ça va s'arrêter. Vous avez bien agi, c'était comme ça qu'il fallait faire. Fin de l'histoire de Kalila Wadimna. Et donc, qu'est-ce que nous avons vu? Eh bien, nous avons vu exactement ce que je vous annonçais, un moyen pour le jeune prince ambitieux, et le héros c'est Dimna ici dans l'histoire, ce n'est pas le lion, ce n'est pas le taureau, ce n'est pas Kalila, c'est Dimna qui est notre héros. Pour ce jeune prince ambitieux, comment fait-il pour grimper les échelons, pour se faire remarquer du roi? Comment fait-il si le chemin est bouché par la présence de quelqu'un d'autre? Comment peut-il faire pour évincer cette autre personne et prendre sa place? Et donc l'original persan ou sanskrit s'arrêtait là et la leçon était très claire. Ibn al-Mukaffa a trouvé que c'était tout à fait immoral ou amoral et qu'on ne pouvait pas du tout laisser l'histoire se terminer sur la victoire de cet abominable Dimna qui a était la cause de la mort de ce pauvre taureau qui n'avait rien fait de mal et qui, on l'a bien vu dans toute l'histoire, agit d'une manière tout à fait honteuse et n'hésite pas à mentir, à empoisonner une amitié et à écarter tous ceux qui sont sur son chemin. Et donc, il a ajouté, Ibn al-Mukaffa, 8e siècle, il a ajouté une séquelle, une seconde partie, un second chapitre à cette histoire. Et ce second chapitre, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient la découverte par la reine, la maman du lion, de la duplicité abominable de Dimna, le fait que Dimna est condamnée et est finalement tuée, et Kalila aussi va mourir dans ce deuxième chapitre. Et donc, en nous ajoutant cette histoire de la fin morale, si vous voulez, de cet abominable Dimna, eh bien, Ibn al-Mukaffa nous avons tout à fait perdu le fil de l'histoire. Parce que le lecteur qui s'est peut-être un petit peu enthousiasmé pour ce héros amoral dans le premier chapitre, retombe sur terre en se disant, mais alors, quel est le but de ce premier chapitre? Pourquoi est-ce qu'on m'a mené comme ça vers un sommet, une victoire de Dimna, pour qu'après ça, il soit condamné et que la morale triomphe? Cette morale n'a rien à voir, ne vient rien faire dans le but de ce premier chapitre. Cette morale est véritablement un rajout, une excroissance qui, selon moi, est tout à fait inutile et nocive pour la compréhension de l'histoire. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, c'est ma façon d'interpréter la chose et de parler de ça. c'est pas par hasard que j'ai mentionné le fait que Dimna est tout à fait machiavélique. Et alors ça, c'est un petit clin d'œil que je m'offre, donc je n'ai pas du tout l'intention, étant iranologue, de découvrir des vérités au sujet de Machiavel, mais en lisant Le Prince de Machiavel, on se rend compte qu'il y a une lecture tout à fait parallèle et des conseils tout à fait semblables à ce que je trouve dans mes fables persanes. Il est possible que Machiavel ait connu ses ouvrages persans, donc, ou enfin dans sa traduction morale arabe, puisque l'ouvrage a été traduit en latin au XIIIe siècle, et puisque, et ça c'est un petit peu étonnant, quelques années au XVIe siècle, quelques années après la sortie du Prince de Machiavel, on voit que à Florence même est publiée une traduction en italien des fables persanes. Donc, et puis de toute façon, et ça c'est aussi quelque chose dont on doit bien se rendre compte, ni l'Occident médiéval ni l'Orient médiéval ne vivent sous cloche. Il y a énormément de rapports et d'influences réciproques entre ces deux mondes. On ne devrait même pas les appeler deux mondes différents. Ils sont tout à fait imbriqués l'un dans l'autre. Et il ne serait pas du tout étonnant que quelqu'un comme Machiavel se soit intéressé à cette approche tout à fait amorale. C'est d'ailleurs ce qu'on a reproché au prince de Machiavel, c'est le fait que, contrairement à toute une tradition de conseils et qui remonte jusqu'à Cicéron, les conseils au prince en général sont de l'ordre moral, soyez honnête, entourez-vous de gens compétents et bien, récompensez-les, n'abandonnez pas vos amis, tenez parole, et tout un arsenal de règles morales qui sont tout à fait honorables pour un monarque. Machiavel tout à coup arrive en disant, écoutez, c'est très bien d'agir comme ça, mais dans l'histoire passée et dans ce qu'on voit qui arrive aujourd'hui en Italie, les monarques qui ont agi comme ça, d'une manière tout à fait morale et digne, ne sont pas restés très longtemps sur le trône. Et donc si vous désirez arriver là où vous voulez, au sommet, et si vous désirez y rester, eh bien, voilà ma recette. Et donc Machiavel est tout à fait dans la ligne de mes fables persanes que donc on peut effectivement désigner comme des fables machiavéliques. Mais donc ça c'est un peu une approche un peu secondaire, mais qui illustre très bien la portée de ces fables.
Vous avez dit en fait que vous étiez une pionnière, on peut dire ça, dans la relecture de ces femmes. Est-ce que vous collaborez avec vos confrères? Comment ça se passe?
Oui.
Et d'un point de vue aussi du nettoyage du texte?
Oui.
Donc, deux choses, sur le texte et sur vos...
Absolument, absolument. Donc, ici, je vous ai brossé le tableau très, très, très général. C'est vrai que je travaille plus particulièrement sur ce texte du XVe siècle, qui est une re-écriture de ces fables. Ce texte m'intéresse beaucoup pour deux raisons principales. La première, je l'ai mentionné dans l'introduction, l'auteur est le premier, me semble-t-il, parmi tous ceux qui se sont intéressés à une réécriture de ces fables, est le premier à dire, donc il ne s'agit pas ici de moralité, il s'agit de science politique. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cet auteur du XVe siècle a essayé de redécouvrir le sens non moral de ces fables. Et c'est à ça que je m'emploie pour le moment, et donc je peux déjà vous dire que en fait c'est très très subtil, puisque il n'a pas du tout nettoyé le texte en profondeur comme j'ai envie ou comme j'essaye un petit peu de le faire. Il a enlevé certaines fables, certaines histoires. Il y a naturellement le cadre général de l'histoire comme je viens de vous le narrer. Il ajoute d'autres histoires, il ajoute d'autres commentaires, d'autres développements qui vont tous dans le sens effectivement de leçons politiques au prince. Il garde l'idée de mettre une morale à la fin de chacune des histoires, chacune des fables illustratives, mais cette morale est à la fois différente de son modèle plus ancien du XIIe siècle, et à la fois, dans certains cas, on a l'impression, mais évidemment c'est très très délicat de l'affirmer parce que je n'en suis pas encore arrivée à une certitude, mais on a l'impression qu'il... Il joue vraiment le jeu de dire oui, je vous plaque une morale là-dessus, mais n'importe qui voit bien que ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on vient de raconter. Donc quelquefois, chez Kashefi, la morale est même opposée, je veux dire, à la fable illustrative qui vient nous donner. Et donc j'ai du mal à croire que l'auteur ne s'en est pas rendu compte. Donc il faut chercher la raison pour laquelle il plaque comme ça une morale maladroite sur une fable, et jusqu'à présent c'est ça l'explication que j'ai. Donc il a c'est un peu un clin d'œil, c'est un peu un signal même pour dire écoutez, c'est moral, il ne faut pas s'y intéresser, ce n'est pas du tout de ça que je parle vraiment. En aparté, si je vous parle d'un clin d'œil, c'est vrai que un des éléments les plus charmants de la poésie ou de la littérature médiévale persane, c'est que sous des aspects très très sérieux, et effectivement nous parlons ici de quelque chose de qui s'approche très 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 fort du gouvernement, donc il y a peu de choses qui sont plus sérieuses que ça, mais les Iraniens ont toujours cette faculté de rebondir, de faire des clins d'œil, de faire de l'humour, et donc ça c'est toujours un des grands plaisirs, un des cadeaux quand on s'intéresse à la littérature, à la poésie persane, c'est cette petite touche amusée qui ressort toujours. Bon, ça c'était un petit aparté. Donc, première raison pour laquelle ce texte du 15e est intéressant, c'est parce que l'auteur lui-même a signalé le but politique et non moral de ses fables. Deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'étudier ce texte, c'est parce que c'est un texte qui est passé à la trappe depuis le 19e siècle. Donc, il a été composé au 15e à cette cour extrêmement brillante que je vous mentionnais, la cour timourite de Herat. Et à partir de là, il est devenu, ce texte des Lumières de Canope, du Anwar Sohaili, est devenu vraiment un best-seller. Un best-seller pendant 4 siècles dans tout l'Orient. Que ce soit, je vous le disais, en Inde, que ce soit en Perse, que ce soit en Asie centrale, que ce soit en Turquie ottomane, c'est devenu un des classiques de la littérature persane, extrêmement admiré. Il y a des manuscrits à l'appel, donc on se rend compte que vraiment c'était un texte très très apprécié. Et puis il a été tout à fait critiqué, tout à fait poignardé, assassiné, je veux dire, par... les savants orientalistes, entre autres le grand savant Edward Brown à Cambridge, qui dans son histoire de la littérature persane le décrit comme un texte le plus horrible texte de prose persane qu'on puisse inventer. La langue est lourde, la langue est pleine de redondances, est pleine de est baroque, est tellement orné qu'on en perd le fil de l'histoire. Enfin, il n'a pas assez de critiques à formuler au sujet de ce texte. Et il est très intéressant de voir qu'à partir de là, les Iraniens eux-mêmes ne l'ont plus regardé avec faveur, au contraire, et qu'il est vraiment tout à fait... Il est disons qu'il est encore cité comme un contre-exemple de la bonne, du bon emploi de la langue littéraire persane, et plus personne ne l'a étudié. Et donc, pour un chercheur, c'est du gâteau, ça, parce que effectivement, je me trouve là devant quelque chose qui a été tellement célèbre, et puis qui a été tellement critiqué, et qui est maintenant pratiquement inconnu et encore très très mal vu. Donc, c'est une véritable croisade. Je me positionne dans cette recherche à la fois contre la mode littéraire qui veut que des textes aussi lourds, aussi ornés, et il y a une raison pour ça, et je vais y revenir dans un instant, que des textes comme ça soient mal vus et ne soient plus du tout étudiés. Et je me pose aussi contre une attitude donc d'approche de ces fables comme des fables morales. Donc je suis là toute seule contre le monde entier, mais c'est très 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 amusant. Et ce que je voulais dire aussi, c'est la raison pour laquelle ce texte est aussi orné, la raison pour laquelle la langue employée par l'auteur du XVe siècle pour réécrire les fables persanes, la raison pour laquelle cette langue contient tous les artifices de la rhétorique persane, est extrêmement lourd. Et effectivement, ça en rend la lecture très ardue, très lente aussi, puisqu'il faut déblayer un peu tous les artifices de la langue pour retrouver la réalité de l'histoire et le fond de toute l'affaire. Mais la raison pour laquelle il a écrit ça, jusqu'à présent, je m'étais dit, c'est simplement une question de mode. C'est vrai qu'au XVe siècle, à Herat, nous avons cette cour ultra raffinée et nous avons une attention de la part des lettrés de la cour pour une langue de plus en plus ornée. C'est vrai, c'est dans l'air du temps. Mais Kashefi, avec ses Anwar et Soheli, a été tellement loin dans cette utilisation de la rhétorique, que c'est devenu presque, on peut effectivement considérer que c'est un pastiche, c'est un monstre, ce livre. Mais à mon avis maintenant, je me dis, il a farci son texte de toute cette connaissance rhétorique, parce que effectivement, dans son optique de composer un miroir pour prince, un livre d'instruction politique, une des leçons principales, et ça on le sait depuis Aristote, une des leçons principales pour celui qui veut, et c'est de ça qu'il s'agit après tout en politique, j'espère qu'on me pardonnera de dire ça, celui qui veut manipuler son interlocuteur, un des moyens les plus essentiels, c'est effectivement la rhétorique. C'est de réussir à raconter n'importe quoi et que ça ait l'air tellement bien, ce soit tellement bien amené que effectivement l'interlocuteur soit convaincu sans trop. Il est tellement bouleversé par la beauté de la langue employée qu'il se laisse mener et ne réfléchit plus tellement au sens profond de ce qu'on est en train de lui dire. Donc, Machiavel aussi le dit, une des leçons premières pour le prince, pour celui qui veut arriver, c'est de maîtriser la rhétorique. Et donc, je me dis que Kashefi a peut-être pensé que pour que son livre soit un enseignement complet, eh bien, le jeune prince qui va lire ce livre, en le lisant, vient à maîtriser la rhétorique qu'il va pouvoir à ce moment-là employer pour arriver à ses fins, comme c'est expliqué dans le livre. Mais ça, c'est une idée que j'ai eue il n'y a pas tellement longtemps, et donc il faut que aussi je m'assure des bases réelles avant de vraiment affirmer ça. Mais je pense que je ne me suis pas trop trompée déjà.